France Culture la nuit, avec vous jusqu'à 6h du matin. France Culture la nuit, un patrimoine radiophonique.
Marc Floriot, bonsoir. Roland Barthes parlait ici en 1964. Il parlait d'écriture, comme il en parlera tout au long de sa vie. Mais sans doute sait-on mieux aujourd'hui l'entendre. De l'écrivain heureux au tragique de l'écrivain, il décode ici le questionnement fondamental d'un écrivain cherchant la levée de toute hypothèque imposée par le classicisme, mais dont, paradoxalement, le statut ne recouvrirait plus exactement la condition. Barthes le signale à mi-mot. Dégagé de l'emprise de l'essentialisme, l'écrivain s'impose des formes dites amodales, et ce serait alors des retrouvailles avec l'instrumentalité pure. Mais cela ne suffira pas. Et en effet, on l'entend mieux quand, évoquant l'inconfort actuel, entre guillemets, de l'écrivain, il tentera, jusqu'au cours du Collège de France, d'expliquer son propre embarras qui y culmine. C'est ainsi que, par des voies diverses, Roland Barthes n'aura pas préparé de roman, mais tiré de l'opposition désespérée d'un art de l'explication ou d'expression, la seule écriture encore désirable qui soit, celle clandestine du poème, sanctuaire de la langue.
L'Office de radiodiffusion télévision française présente Morceaux choisis. Morceaux choisis, aujourd'hui, Roland Barthes. Page publiée, choisie par l'auteur et présentée par Jean Paget. Avec François Chaumette, sociétaire de la Comédie française, René Clermont et Jean Topard. Réalisation Georges Gravier. Œuvre de Roland Barthes. Le degré zéro de l'écriture, Michelet par lui-même, mythologie, sur Racine, essai critique.
Roland Barthes, vous avez écrit un certain nombre d'essais dans lesquels vous avez cherché à démystifier un certain nombre de mythes contemporains. Le degré zéro, dites-vous ailleurs, est une manière de mythologie du langage littéraire. Vous avez montré dans le degré zéro que l'écriture classique est une écriture de classe. Contre le pouvoir du mythe qui s'est installé dans cette écriture classique, que faut-il faire? Par quelle écriture faut-il réagir? Quel effort de dégagement faut-il faire?
Que faire? C'est évidemment une question d'écrivain, c'est une question qui est faite pour les écrivains et le critique pourrait répondre avec une certaine mauvaise foi, mais aussi avec une certaine vérité, que ça n'est pas à lui à répondre, que lui a posé une sorte d'analyse, de diagnostic d'une situation du langage littéraire, mais que naturellement, et c'est d'ailleurs pour cela qu'il est critique et qu'il n'est pas écrivain, ça n'est pas à lui à former, à créer la solution. Je ne pense pas tout de même qu'on puisse se dérober complètement à votre question, qui est une question très importante, et je répondrai en m'inspirant un peu de la réponse que je crois percevoir dans un certain nombre d'œuvres contemporaines ou de tentatives ou d'expériences contemporaines, qui sont évidemment en général classées un peu comme des expériences et des tentatives, disons, d'avant-garde. Et je dirais qu'un certain nombre d'écrivains actuels sont tout de même très conscients du poids extraordinaire qu'une écriture littéraire désormais séculaire, extrêmement lourde, fait peser précisément sur leurs conditions d'écrivain. Un écrivain qui veut écrire aujourd'hui, ou simplement, disons, un jeune homme qui veut écrire, il y en a encore, et enfin qui mène certainement des expériences radicales et très intéressantes, eh bien, quelqu'un qui veut écrire, évidemment, son drame, si vous voulez, c'est qu'il se trouve devant un instrument verbal, un langage, une écriture qui lui vient d'une histoire littéraire extrêmement chargée, très belle, très somptueuse, mais par là même très lourde à porter. Est-ce que un écrivain, un jeune écrivain d'aujourd'hui, peut réellement sans problème se dire qu'il va manier la langue classique de Voltaire ou la langue romantique de Chateaubriand ou même la langue, disons, post-romantique de Claudel? Il y a là toute une série d'hypothèques qui pèsent sur le langage littéraire français et qui lui ôtent précisément de sa liberté, n'est-ce pas ? Écrire en français, écrire de la littérature française, c'est hériter d'un héritage extrêmement lourd. C'est cela la situation de départ, si vous voulez. Alors, si cette analyse a quelque justesse, cela veut dire que l'un des premiers efforts du jeune écrivain, c'est évidemment de prendre d'une certaine façon ses distances à l'égard de cet héritage. C'est son rôle d'ailleurs, c'est comme cela que la littérature progresse. Et prendre sa distance, c'est-à-dire essayer de trouver une écriture ou des écritures qui, comme on dit maintenant, déconditionnent le lecteur par rapport à cette écriture fabuleuse de la littérature française. Autrement dit, il y a bien des solutions de déconditionnement, de dégagement. J'en avais autrefois esquissé quelques-unes dans ce livre, justement, qui s'appelle « Le degré zéro de l'écriture ». On peut, par exemple, travailler à produire une écriture parlée, c'est-à-dire une écriture insérée complètement dans le réel et qui renonce le plus possible aux signes de la littérature.
Comme celle de Queneau.
Comme celle de Queneau, comme les tentatives d'ailleurs extrêmement élaborées et extrêmement intelligentes et intentionnelles de Queneau. Ou alors on peut essayer de produire ce que j'ai appelé des écritures blanches, c'est-à-dire des écritures qui, précisément, sans essayer de rejoindre l'espèce de vérisme de la langue parlée, se maintiennent dans une sorte d'état presque innocent de la langue, n'est-ce pas ? Comme si on pouvait arriver à produire, avec d'ailleurs beaucoup d'efforts, un langage qui ne signifie pas fatalement la littérature, qui serait un langage en quelque sorte neutre et transparent. Mais alors, ma thèse, si vous voulez, la thèse que j'ai défendue dans ce livre, c'est que cet effort est très important. Il représente une sorte de tentative presque tragique de l'écrivain contre le langage ou sur le langage, et par là même il a une importance humaine très grande, mais je pense que cet effort est voué de toute manière à un certain échec, en ce sens qu'on n'arrive jamais à produire une écriture libre, une écriture neutre, une écriture transparente, une écriture qui vraiment supprime l'héritage des siècles. En produisant cette écriture, finalement, on élabore de nouveau des signes littéraires qui seront, dans 10 ou 15 ans, consommés comme précisément comme les signes d'une nouvelle littérature. Et par là même, il y a une sorte... La littérature, si vous voulez, historiquement, se définirait par une sorte de procès, de marche incessante, d'échec en échec, en un sens, mais... Comme le disait Montaigne, il est des pertes triomphantes à l'envi des victoires, n'est-ce pas ? Il y a des fêtes qui font le sens des entreprises, et je pense que cette lutte de l'écrivain contre le drapé théâtral extrêmement beau mais extrêmement lourd de notre littérature, de la littérature française, eh bien, cette lutte, c'est précisément l'un des sens de la littérature actuelle.
L'écriture classique est évidemment une écriture de classe. Né au XVIIe siècle dans le groupe qui se tenait directement autour du pouvoir, formé à coups de décisions dogmatiques, épuré rapidement de tous les procédés grammaticaux qui avaient pu élaborer la subjectivité spontanée de l'homme populaire et dressé au contraire à un travail de définition, l'écriture bourgeoise a d'abord été donnée, avec le cynisme habituel au premier triomphe politique, comme la langue d'une classe minoritaire et privilégiée. En 1647, Vaugelas recommande l'écriture classique comme un état de fait, non de droit. La clarté n'est encore que l'usage de la cour. En 1660, au contraire, dans la grammaire de Port-Royal, par exemple, la langue classique est revêtue des caractères de l'universel. La clarté devient une valeur. En fait, la clarté est un attribut purement rhétorique. Elle n'est pas une qualité générale du langage, possible dans tous les temps et dans tous les lieux, mais seulement l'appendice idéal d'un certain discours, celui-là même qui est soumis à une intention permanente de persuasion. C'est parce que la pré-bourgeoisie des temps monarchiques et la bourgeoisie des temps post-révolutionnaires, usant d'une même écriture, ont développé une mythologie essentialiste de l'homme, que l'écriture classique, une et universelle, a abandonné tout tremblement au profit d'un continu dont chaque parcelle était choix, c'est-à-dire élimination radicale de tout possible du langage. L'autorité politique, le dogmatisme de l'esprit et l'unité du langage classique sont donc les figures d'un même mouvement historique. Aussi n'y a-t-il pas à s'étonner que la Révolution n'ait rien changé à l'écriture bourgeoise et qu'il n'y ait qu'une différence fort mince entre l'écriture d'un Fénelon et celle d'un Mérimée. C'est que l'idéologie bourgeoise a duré, exempte de fissures, jusqu'en 1848, sans s'ébranler le moins du monde au passage d'une révolution qui donnait à la bourgeoisie le pouvoir politique et social, nullement le pouvoir intellectuel qu'elle détenait depuis longtemps déjà. De Laclos à Stendhal, l'écriture bourgeoise n'a eu qu'à se reprendre et à se continuer par-dessus la courte vacance des troubles. Et la révolution romantique, si nominalement attachée à troubler la forme, a sagement conservé l'écriture de son idéologie. Un peu de lest jeté en mélangeant les genres et les mots lui a permis de préserver l'essentiel du langage classique, l'instrumentalité. Sans doute un instrument qui prend de plus en plus de présence, notamment chez Chateaubriand, mais enfin un instrument utilisé sans hauteur et ignorant toute solitude du langage. Seul Hugo, par le poids de son style, a pu faire pression sur l'écriture classique et l'amener à la veille d'un éclatement. Aussi le mépris de Hugo cautionne-t-il toujours la même mythologie formelle. À l'abri de quoi c'est toujours la même... Seul Hugo, en tirant des dimensions charnelles de sa durée et de son espace, une thématique verbale particulière qui ne pouvait plus se lire dans la perspective d'une tradition, mais seulement par référence à l'envers formidable de sa propre existence, seul Hugo, par le poids de son style, a pu faire pression sur l'écriture classique et l'amener à la veille d'un éclatement. Aussi le mépris de Hugo cautionne-t-il toujours la même mythologie formelle, à l'abri de quoi c'est toujours la même écriture dix-huitièmeiste, témoin des fastes bourgeois, qui reste la norme du français de bon aloi, ce langage bien clos, séparé de la société par toute l'épaisseur du mythe littéraire, sorte d'écriture sacrée, reprise indifféremment par les écrivains les plus différents, à titre de loi austère ou de plaisir gourmand, tabernacle de ce mystère prestigieux, la littérature française. Or, les années situées alentour 1850 amènent la conjonction de trois grands faits historiques nouveaux. Le renversement de la démographie européenne, la substitution de l'industrie métallurgique à l'industrie textile, c'est-à-dire la naissance du capitalisme moderne, la sécession, consommée par les journées de juin 1848, de la société française en trois classes ennemies, c'est-à-dire la ruine définitive des illusions du libéralisme. Ces conjonctures jette la bourgeoisie dans une situation historique nouvelle. Jusqu'alors, c'était l'idéologie bourgeoise qui donnait elle-même la mesure de l'universel, le remplissant sans contestation. L'écrivain bourgeois, seul juge du malheur des autres hommes, n'ayant en face de lui aucun autrui pour le regarder, n'était pas déchiré entre sa condition sociale et sa vocation intellectuelle. Dorénavant, cette même idéologie n'apparaît plus que comme une idéologie parmi d'autres possibles. L'universel lui échappe. Elle ne peut se dépasser qu'en se condamnant. L'écrivain devient la proie d'une ambiguïté, puisque sa conscience ne recouvre plus exactement sa condition. Ainsi naît un tragique de la littérature. C'est alors que les écritures commencent à se multiplier. Chacune, désormais, la travaillée, la populiste, la neutre, la parlée, se veut l'acte initial par lequel l'écrivain assume ou aborde sa condition bourgeoise. Chacune est une tentative de réponse à cette problématique orphéenne de la forme moderne, des écrivains sans littérature. Depuis 100 ans, Flaubert, Mallarmé, Rimbaud, les Goncourt, les surréalistes, Queneau, Sartre, Blanchot ou Camus ont dessiné, dessinent encore, certaines voies d'intégration, d'éclatement ou de naturalisation du langage littéraire. Mais l'enjeu, ce n'est pas telle aventure de la forme, telle réussite du travail rhétorique ou telle audace du vocabulaire. chaque fois que l'écrivain trace un complexe de mots, c'est l'existence même de la littérature qui est mise en question. Ce que la modernité donne à lire dans la pluralité de ses écritures, c'est l'impasse de sa propre histoire. Dans ce même effort de dégagement du langage littéraire, voici une autre solution. Créer une écriture blanche, libérée de toute servitude à un ordre marqué du langage. Une comparaison empruntée à la linguistique rendra peut-être assez bien compte de ce fait nouveau. On sait que certains linguistes établissent entre les deux termes d'une polarité, singulier pluriel, prétérit présent, l'existence d'un troisième terme, terme neutre ou terme zéro. Ainsi, entre les modes subjonctif et impératif, l'indicatif leur apparaît comme une forme amodale. Toute proportion gardée, l'écriture au degré zéro est au fond une écriture indicative, ou si l'on veut, amodale. Il serait juste de dire que c'est une écriture de journaliste, si précisément le journalisme ne développait en général des formes optatives ou impératives, c'est-à-dire pathétiques. La nouvelle écriture neutre se place au milieu de ses cris et de ses jugements sans participer à aucun d'eux. Elle est faite précisément de leur absence. Mais cette absence est totale. Elle n'implique aucun refuge, aucun secret. On ne peut donc dire que c'est une écriture impassible, c'est plutôt une écriture innocente. Il s'agit de dépasser ici la littérature en se confiant à une sorte de langue basique, également éloignée des langages vivants et du langage littéraire proprement dit. Cette parole transparente, inaugurée par L'étranger de Camus, accomplit un style de l'absence qui est presque une absence idéale du style. L'écriture se réduit alors à une sorte de mode négatif dans lequel les caractères sociaux ou mythiques d'un langage s'abolissent au profit d'un état neutre et inerte de la forme. La pensée garde ainsi toute sa responsabilité, sans se recouvrir d'un engagement accessoire de la forme dans une histoire qui ne lui appartient pas. Si l'écriture de Flaubert contient une loi, si celle de Mallarmé postule un silence, si d'autres, celles de Proust, de Céline, de Queneau, de Prévert, chacune à sa manière, se fondent sur l'existence d'une nature sociale, si toutes ces écritures impliquent une opacité de la forme, supposent une problématique du langage et de la société, établissant la parole comme un objet qui doit être traité par un artisan, un magicien ou un scripteur, mais non par un intellectuel, l'écriture neutre retrouve réellement la condition première de l'art classique, l'instrumentalité. Mais cette fois, l'instrument formel n'est plus au service d'une idéologie triomphante. Il est le mode d'une situation nouvelle de l'écrivain. Il est la façon d'exister d'un silence. Il perd volontairement tout recours à l'élégance ou à l'ornementation, car ces deux dimensions introduiraient à nouveau dans l'écriture le temps, c'est-à-dire une puissance dérivante, porteuse d'histoire. Si l'écriture est vraiment neutre, si le langage, au lieu d'être un acte encombrant et indomptable, parvient à l'état d'une équation pure, n'ayant pas plus d'épaisseur qu'une algèbre en face du creux de l'homme, alors la littérature est vaincue. La problématique humaine est découverte et livrée sans couleur. L'écrivain est sans retour un honnête homme. Malheureusement, rien n'est plus infidèle qu'une écriture blanche. Les automatismes s'élaborent à l'endroit même où se trouvait d'abord une liberté, un réseau de formes durcies serre de plus en plus la fraîcheur première du discours, une écriture renaît à la place d'un langage indéfini. L'écrivain, accédant au classique, devient l'épigone de sa création primitive, la société fait de son écriture une manière et le renvoie prisonnier de ses propres mythes formels.
Roland Barthes, dans les mythologies, vous avez écrit une série de textes pendant 2 ans au gré de l'actualité. Ces mythologies essayaient de définir les mythes de la vie quotidienne française et vous faisiez une réflexion sur ces mythes. Ce faisant, sous les apparences du mythe, vous essayiez de retrouver les réalités. Quelle est pour vous la notion du mythe et comment entendez-vous, vous-même, la lutte que vous menez contre le mythe?
Les petits textes que j'ai donnés effectivement pendant 2 ans chaque mois aux lettres nouvelles partaient, si vous voulez, d'un sentiment, je n'ai aucune raison de le cacher, disons très subjectif, très personnel, à savoir une sorte d'agacement, d'irritation contre la façon dont ce qu'on appelle maintenant les communications de masse, la grande presse par exemple, la publicité, présentent des faits de la vie quotidienne, des incidents, des faits divers, comme fondée en quelque sorte sur des raisons qui vont de soi. Et c'est cette notion du « cela va de soi » que j'ai voulu en quelque sorte démonter et critiquer. J'ai voulu montrer, si vous voulez, que ce qui se passe dans le monde, au niveau précisément de cette grande information, ne va pas forcément de soi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une façon naturelle de rendre compte de ce qui se passe dans le monde. Et j'ai voulu opposer à cette espèce de fausse nature une sorte de raison critique qui, évidemment, pouvait présenter certains aspects, comme on dit maintenant, démystifiants. Mais de là, donc, l'origine de ces textes est extrêmement, comme je l'ai dit, subjective, personnelle, peu systématique au début. Mais évidemment, à force d'en écrire, j'étais amené à une réflexion plus générale, plus intellectuelle, si vous voulez, et j'ai essayé de démonter, ne serait-ce que pour moi, le mécanisme de cette élaboration, de ces mythes quotidiens. Et c'est là alors que j'ai rencontré une forme de pensée, ou une science, ou une discipline qui m'a personnellement beaucoup apporté, beaucoup aidé, et qui est précisément la linguistique. La linguistique qui est, si vous voulez, en gros, la discipline du sens. D'abord la discipline du sens des mots, mais maintenant on le pense aussi de plus en plus du sens des choses, m'a permis d'y voir un peu plus clair dans, du moins je l'espère et je l'ai pensé, dans cette sorte d'élaboration sociale des grandes images collectives, n'est-ce pas, qu'on appelle des mythes. Ce qui fait qu'évidemment, pour répondre à votre question, et je l'ai fait dans un texte final du livre, le mythe pour moi avant tout, le mythe, c'est-à-dire l'image collective élaborée par la société, par exemple la société française actuellement, est un langage. C'est une parole, d'ailleurs c'est en accord avec l'étymologie, n'est-ce pas ? C'est un langage et par là même c'est construit comme un langage, c'est-à-dire qu'il y a, comme on dit techniquement, un plan des signifiants, un plan des signifiés et tout un jeu de la signification, pas un jeu presque technique de la signification. Alors, je passe sur le détail de ce jeu, qui serait un peu compliqué à expliquer, surtout oralement, il faudrait presque des schémas. Mais je dirais que ce que j'ai voulu montrer, c'est que ce jeu de la signification était fondé sur le principe suivant. La société prend effectivement des informations, comme des faits divers ou même des informations de publicité, et semble les donner sous une forme objective et littérale, alors qu'en réalité, presque toujours, elle lui impose subrepticement un sens second. Je cherche un exemple, j'en avais donné un, mais qui est un peu dépassé par l'histoire. C'était celui d'une couverture d'un grand magazine illustré représentant un noir en uniforme militaire français et saluant le drapeau français. Eh bien, d'une certaine façon, il n'y a là qu'une information littérale, c'est-à-dire une image pure et simple, mais en réalité, nous comprenons tous très bien, plus ou moins consciemment, mais finalement très clairement, que cette image nous suggère un sens second qui, en gros, à l'époque, était certains rapports entre l'ancien empire colonial de la France et la métropole, si vous voulez. Voyez-vous, il y avait donc un sens politique ou disons idéologique,
qui est l'impérialité.
Une sorte d'impérialité, c'est exactement le mot, car ces mots qui finissent en T et qui sont des mots effectivement souvent très barbares, tout de même rendent très bien cette sorte de sens idéologique second. Alors, si vous voulez, le fonctionnement du mythe, à mon sens, dans les sociétés contemporaines, c'est cette sorte de tourniquet entre quelque chose qui est présenté comme un produit de la nature, du « cela va de soi », et un sens idéologique second, non pas véritablement secret, car s'il était secret, ça n'aurait plus d'intérêt, mais second, implicite en quelque sorte. Voilà ce que j'ai essayé de systématiser au terme de ce recueil d'analyse mythologique.
Et votre lutte, alors la vôtre, celle du mythologue?
Alors évidemment, toute position de démystification est une position extrêmement ambiguë. Je ne pense pas qu'on peut être démystificateur sans une certaine mauvaise foi, car il n'y a aucune raison de s'ériger soi-même en juge du monde et de se mettre à l'abri de ces sortes de mécanismes d'aliénation. Alors, d'ailleurs, à la fin de ce texte dont je parlais, j'ai essayé de montrer que le mythologue lui-même, bien qu'il ait l'air d'une sorte de juge critique extérieur au procès, était finalement parti, lui aussi, dans cet ensemble de phénomènes. En ce qui me concerne, il est certain que j'ai publié les mythologies, je crois, en 1957, et je dirais franchement que d'une certaine façon, je serais incapable d'en réécrire. Je n'en aurais plus le goût, parce que précisément l'espèce de poussée d'impulsion subjective, un peu sarcastique et par là même un peu, disons, un peu agressive, que j'avais à l'époque et qui m'a fait écrire, s'est transformée, elle s'est intellectualisée. Je me suis déporté vers une étude en quelque sorte plus objective, plus sereine, des mécanismes de signification. Peut-être que là aussi, moi-même, je suis, comme beaucoup d'intellectuels, comment dirais-je, influencé par le climat général qui est actuellement tout de même en France un climat de départicipation politique, c'est un lieu commun de le dire. Peut-être que je suis moi-même un témoin de ce mouvement, un témoin provisoire, disons, de ce mouvement. Naturellement, cette départicipation dont je viens de parler, personnellement, je la crois toute relative. Si vous voulez, je crois au fond profondément à une sorte d'unité de l'esprit humain. Par conséquent, ce qu'on fait avancer en soi-même dans un certain domaine, même si ce domaine paraît un petit peu abstrait par rapport aux réalités, est une sorte de participation profonde et importante à ce qui se fait dans le monde. Je veux dire par là que étudier ou essayer d'étudier, comme je le fais maintenant, les procédés de signification et comment les hommes donnent du sens aux choses, cela fait partie, pour moi, au fond, exactement du même combat, peut-être alors, disons, plus littéral, simplement, que je menais au moment où j'écrivais les petites mythologies.
La croisière du sang bleu. Depuis le couronnement, les Français languissaient après un renouveau de l'actualité monarchique, dont ils sont extrêmement friands. L'embarquement d'une centaine de princes sur un yacht grec, l'Agamemnon, les a beaucoup distraits. Le couronnement d'Élisabeth était un thème pathétique, sentimental. La croisière du sang bleu est un épisode piquant. Les rois ont joué aux hommes, comme dans une comédie de Flers et Caillavé. Il en est résulté 1000 situations cocasses par leurs contradictions, du type Marie-Antoinette jouant à la laitière. La pathologie d'un tel amusement est lourde. Puisque l'on s'amuse d'une contradiction, c'est qu'on en suppose les termes fort éloignés. Autrement dit, les rois sont d'une essence surhumaine et lorsqu'ils empruntent temporairement certaines formes de la vie démocratique, il ne peut s'agir que d'une incarnation contre nature, possible seulement par condescendance. Afficher que les rois sont capables de prosaïsme, c'est reconnaître que ce statut ne leur est pas plus naturel que l'angélisme au commun des mortels. C'est constater que le roi est encore de droit divin. Ainsi, les gestes neutres de la vie quotidienne ont pris sur l'Agamemnon un caractère exorbitant d'audace, comme ces fantaisies créatives où la nature transgresse ses règnes. Les rois se rasent eux-mêmes. Ce trait a été rapporté par notre grande presse comme un acte d'une singularité incroyable, comme si, en lui, les rois consentaient à risquer toute leur royauté, professant d'ailleurs par là même leur foi dans sa nature indestructible. Le roi Paul portait une chemisette à manches courtes. La reine Frédérique, une robe imprimée, c'est-à-dire non plus singulière, mais dont le dessin peut se retrouver sur le corps de simples mortels. Autrefois, les rois se déguisaient en bergers. Aujourd'hui, s'habiller pour 15 jours dans un uniprix, tel est pour eux le signe du déguisement. Autre statut démocratique, se lever à 6 heures du matin. Tout ceci renseigne par antiphrase sur une certaine idéalité de la vie quotidienne. Porter des manchettes, se faire raser par un larbin, se lever tard. En renonçant à ces privilèges, les rois les repoussent dans le ciel du rêve. Leur sacrifice, tout temporaire, fixe dans leur éternité les signes du bonheur quotidien. Ce qui est plus curieux, c'est que ce caractère mythique de nos rois
est aujourd'hui laïcisé, mais nullement conjuré par le biais d'un certain scientisme. Les rois sont définis par la pureté de leur race, le sang bleu, comme des chiots. Et le navire, lieu privilégié de toute clôture, est une sorte d'arche moderne où se conservent les principales variations de l'espèce monarchique. À tel point qu'on y suppute ouvertement les chances de certains appariements. Enfermés dans leur hara navigant, les purs sang sont à l'abri de toute noce bâtarde. Tout leur est annuellement préparé pour qu'ils puissent se reproduire entre eux. Aussi peu nombreux sur terre que les paddocks, le navire les fixe et les rassemble, constitue une réserve temporaire où l'on garde, et par chance où l'on risque de perpétuer, une curiosité ethnographique aussi bien protégée qu'un parc à sioux. Les deux thèmes séculaires se mêlent, celui du roi Dieu et celui du roi objet. Mais ce ciel mythologique n'est tout de même pas si inoffensif à la terre. Les mystifications les plus éthérées, les amusants détails de la croisière du sang bleu, tout ce baratin anecdotique dont la grande presse a saoulé ses lecteurs, n'est pas donné impunément. Forts de leur divinité renflouée, les princes font démocratiquement de la politique. Le comte de Paris abandonne l'Agamemnon pour venir à Paris surveiller le sort de la CED et l'on envoie le jeune Juan d'Espagne au secours du fascisme espagnol.
Le monde où l'on catch. Il y a des gens qui croient que le catch est un sport ignoble. Le catch n'est pas un sport, c'est un spectacle. Et il n'est pas plus ignoble d'assister à une représentation catchée de la douleur qu'aux souffrances d'Arnolphe ou d'Andromaque. Bien sûr, il existe un faux catch qui se joue à grands frais avec les apparences inutiles d'un sport régulier. Cela n'a aucun intérêt. Le vrai catch, dit improprement catch d'amateur, se joue dans des salles de seconde zone, où le public s'accorde spontanément à la nature spectaculaire du combat, comme fait le public d'un cinéma de banlieue. Ces mêmes gens s'indignent ensuite de ce que le catch soit un sport truqué, ce qui d'ailleurs devrait lui enlever de son ignominie. Le public se moque complètement de savoir si le combat est truqué ou non, et il a raison. Il se confie à la première vertu du spectacle qui est d'abolir tout mobile et toute conséquence. Ce qui lui importe, ce n'est pas ce qu'il croit, c'est ce qu'il voit. Ce public sait très bien distinguer le catch de la boxe. Il sait que la boxe est un sport janséniste, fondé sur la démonstration d'une excellence. On peut parier sur l'issue d'un combat de boxe. Au catch, cela n'aurait aucun sens. Le match de boxe est une histoire qui se construit sous les yeux du spectateur. Au catch, bien au contraire, c'est chaque moment qui est intelligible, non la durée. Le spectateur ne s'intéresse pas à la montée d'une fortune, il attend l'image momentanée de certaines passions. Le catch exige donc une lecture immédiate des sens juxtaposés sans qu'il soit nécessaire de les lier. L'avenir rationnel du combat n'intéresse pas l'amateur de catch, alors qu'au contraire, un match de boxe implique toujours une science du futur. Autrement dit, le catch est une somme de spectacles dont aucun n'est une fonction. Chaque moment impose la connaissance totale d'une passion qui surgit droite et seule, sans s'étendre jamais vers le couronnement d'une issue. Ainsi, la fonction du catcheur, ce n'est pas de gagner, c'est d'accomplir exactement les gestes qu'on attend de lui. On dit que le judo contient une part secrète de symbolique. Même dans l'efficience, il s'agit de gestes retenus, précis mais courts, dessinés juste mais d'un trait sans volume. Le catch, au contraire, propose des gestes excessifs, exploités jusqu'au paroxysme de leur signification. Dans le judo, un homme à terre y est à peine. Il roule sur lui-même, il se dérobe, il esquive la défaite. Ou, si elle est évidente, il sort immédiatement du jeu. Dans le catch, un homme à terre y est exagérément, emplissant jusqu'au bout la vue des spectateurs du spectacle intolérable de son impuissance. Cette fonction d'emphase est bien la même que celle du théâtre antique, dont le ressort, la langue et les accessoires, masques et cothurnes, concourait à l'explication exagérément visible d'une nécessité. Le geste du catcheur vaincu, signifiant au monde une défaite que, loin de masquer, il accentue et tient à la façon d'un point d'orgue, correspond au masque antique, chargé de signifier le ton tragique du spectacle. Au catch, comme sur les anciens théâtres, on n'a pas honte de sa douleur. On sait pleurer, on a le goût des larmes.
Le beefsteak et les frites. Le beefsteak participe à la même mythologie sanguine que le vin. C'est le cœur de la viande. C'est la viande à l'état pur, et quiconque en prend s'assimile la force taurine. De toute évidence, le prestige du beefsteak tient à sa quasi-crudité. Le sang y est visible, naturel, dense, compact et sécable à la fois. On imagine bien l'ambroisie antique sous cette espèce de matière lourde qui diminue sous la dent de façon à bien faire sentir dans le même temps sa force d'origine et sa plasticité à s'épancher dans le sang même de l'homme. Le sanguin est la raison d'être du beefsteak. Les degrés de sa cuisson sont exprimés non pas en unité calorique, mais en image de sang. Le beefsteak est saignant, rappelant alors le flot artériel de l'animal égorgé, ou bleu, et c'est le sang lourd, le sang pléthorique des veines, qui est ici suggéré par le violine, état superlatif du rouge. La cuisson, même modérée, ne peut s'exprimer franchement. À cet état contre nature, il faut un euphémisme. On dit que le beefsteak est à point, ce qui est à vrai dire donné plus comme une limite que comme une perfection. Manger le beefsteak saignant représente donc à la fois une nature et une morale. Tous les tempéraments sont censés y trouver leur compte, les sanguins par identité, les nerveux et les lymphatiques par complément. Et de même que le vin devient pour bon nombre d'intellectuels une substance médiumnique qui les conduit vers la force originelle de la nature, de même le beefsteak est pour eux un aliment de rachat grâce auquel ils prosaïsent leur cérébralité et conjurent par le sang et la pulpe molle la sécheresse stérile dont sans cesse on les accuse. La vogue du steak tartare, par exemple, est une opération d'exorcisme contre l'association romantique de la sensibilité et de la maladivité. Il y a dans cette préparation tous les états germinants de la matière. La purée sanguine et le glaireux de l'œuf, tout un concert de substances molles et vives, une sorte de compendium significatif des images de la pré-parturition. Comme le vin, le beefsteak est en France élément de base. Nationalisé plus encore que socialisé. Il figure dans tous les décors de la vie alimentaire. Plat, bordé de jaune, semelloïde dans les restaurants bon marché, épais, juteux dans les bistrots spécialisés, cubique, le cœur tout humecté sous une légère croûte carbonisée dans la haute cuisine. Il participe à tous les rythmes, aux confortables repas bourgeois et aux casse-croûtes bohèmes du célibataire. C'est la nourriture à la fois expéditive et dense, il accomplit le meilleur rapport possible entre l'économie et l'efficacité, la mythologie et la plasticité de sa consommation. De plus, c'est un bien français, circonscrit, il est vrai, aujourd'hui par l'invasion des steaks américains. Comme pour le vin, pas de contrainte alimentaire qui ne fasse rêver le français de beefsteak. À peine à l'étranger, la nostalgie s'en déclare. Le beefsteak est ici paré d'une vertu supplémentaire d'élégance, car, dans la complication apparente des cuisines exotiques, c'est une nourriture qui joint, pense-t-on, la succulence à la simplicité. National, il suit la cote des valeurs patriotiques, il les renfloue en temps de guerre, il est la chair même du combattant français, le bien inaliénable qui ne peut passer à l'ennemi que par trahison. Dans un film ancien, Deuxième bureau contre commandanture, la bonne du curé patriote offre à manger à l'espion Boche déguisé en clandestin français. « Ah, c'est vous, Laurent, je vais vous donner de mon beefsteak. » Et puis, quand l'espion est démasqué, et moi qui lui ai donné de mon beefsteak. Suprême abus de confiance. associé communément aux frites, le beefsteak leur transmet son lustre national. La frite est nostalgique et patriote comme le beefsteak. Match nous a appris qu'après l'armistice indo-chinois, le général de Castres, pour son premier repas, demanda des pommes de terre frites. Et le président des anciens combattants d'Indochine, commentant plus tard cette information, ajoutait « On n'a pas toujours compris le geste du général de Castres demandant pour son premier repas des pommes de terre frites. Ce que l'on nous demandait de comprendre, c'est que l'appel du général n'était certes pas un vulgaire réflexe matérialiste, mais un épisode rituel d'appropriation de l'ethnie française retrouvée. Le général connaissait bien notre symbolique nationale. Il savait que la frite est le signe alimentaire de la francité. »
Roland Barthes, vous avez écrit un texte dans les Essais critiques appelé « À l'avant-garde de quel théâtre ?» où vous montrez que l'avant-garde théâtrale est la plupart du temps récupérée par la bourgeoisie. D'autre part, dans Théâtre populaire, vous avez souvent pris la défense, vous avez toujours pris la défense de Brecht, et vous avez montré combien la dramaturgie brechtienne, qui n'est pas encore acceptée par la société française, était importante. Je voudrais que vous nous disiez pourquoi.
Eh bien, depuis que j'ai écrit ces deux textes, qui se situent à peu près à la même époque, le théâtre en France, il faut bien le dire, a évolué, et a évolué dans un sens qui me paraît, grosso modo, assez négatif par rapport à ces deux textes. C'est-à-dire que d'une part, comme vous le dites très bien, la dramaturgie brechtienne n'est pas acclimatée en France. Il s'est produit là une sorte d'opération mythologique, précisément, que l'on connaît bien, c'est-à-dire que, disons en gros, la société française, les théâtres français de public traditionnel ont accepter l'œuvre de Brecht, ça il faut le reconnaître. Brecht est joué non seulement au Théâtre National Populaire, mais dans d'autres théâtres. L'œuvre de Brecht, l'œuvre théâtrale de Brecht est connue, elle est traduite et elle est jouée. Mais sa dramaturgie précisément, c'est-à-dire tout l'ensemble de règles techniques extrêmement précises que Brecht avait élaborées pour défendre en quelque sorte le sens de son théâtre, cette dramaturgie n'a pas été acclimatée pour diverses raisons, dont les principales sont, je crois, tout simplement des raisons économiques. La dramaturgie brechtienne est, disons en gros, une dramaturgie qui coûte très cher, bien que ce soit une dramaturgie au service d'un théâtre populaire, elle coûte très cher, elle suppose un théâtre, au fond, constitué par l'État. Et cela, ce n'est pas encore complètement, du moins, le cas en France. Donc, effectivement, sur le plan brechtien, il y a eu une sorte d'échec de la propagation de la dramaturgie brechtienne en France. Et par conséquent, il y a une sorte de résultat négatif de l'action en faveur de Brecht sur ce point. Quant à l'avant-garde, eh bien, même résultat négatif, encore plus flagrant, c'est que tout le monde le constate, je le lisais encore dernièrement dans des articles ou dans des revues, il n'y a plus d'avant-garde théâtrale en France. Il n'y a plus d'avant-garde théâtrale en France, et cela se voit, si vous voulez, à deux signes. Il n'y a plus de petites salles d'avant-garde. Pour des raisons économiques, elles ont toutes disparu, se sont transformées, signe des temps, en garage ou en cinéma. Et les auteurs eux-mêmes, les auteurs enfin, que l'on avait coutume de grouper toujours sous cette même rubrique d'avant-garde, Ionesco, Beckett, Adamov, eh bien, pour des raisons différentes selon la personnalité, ne fonctionnent plus, si j'ose dire, comme des auteurs d'avant-garde. Ionesco est passé dans des théâtres subventionnés, comme l'Odéon. Adamov a accentué sa recherche d'un théâtre politique, réaliste et socialiste, et Beckett, lui aussi, a été au fond récupéré, si je puis dire, par des publics traditionnels. Donc on ne peut pas dire, si vous voulez, qu'il y ait actuellement une avant-garde en France. Malgré ce double résultat, disons, actuel, assez négatif, je crois tout de même que ce qu'il s'est passé il y a 5 ou 10 ans, à savoir d'une part le brechtisme et d'autre part le théâtre d'avant-garde, a produit des fruits, des résultats irréversibles. l'avant-garde a donné au théâtre des moyens techniques nouveaux. Elle a assoupli la conscience du spectateur, qui était en général, surtout dans le théâtre bourgeois, une conscience, disons, extrêmement rationaliste, admettant peu les distorsions logiques, les procédés un peu aberrants de présentation. Tout cela, maintenant, peut faire partie du théâtre. N'est-ce pas ? Il y a un assouplissement considérable de la logique mentale du spectateur devant les spectacles. Et on sait très bien que, par exemple, des jeunes gens ou des jeunes filles, enfin des représentants des jeunes générations, maintenant admettent très bien, en allant au théâtre, d'assister à un spectacle, disons, qui aurait paru il y a 20 ans complètement irrationnel. Ceci, naturellement, aidé par le cinéma. Alors, je crois que l'avant-garde a eu un rôle très important dans la mesure précisément où elle a déconditionné la conscience du spectateur, où elle l'a assoupli et élargi vers des images et des procédés moins strictement rationalistes. Quant à Brecht, eh bien, je pense que Brecht, je le dis franchement, je pense que Brecht en France en général est joué à travers, disons, un contresens considérable sur son œuvre. Son œuvre me paraît presque toujours édulcorée et travestie par les mises en scène qu'on lui impose. Mais malgré tout, cette œuvre est riche, puissante, très forte. Et par là même, il y a tout de même quelque chose de Brecht qui passe dans la façon dont on le joue. Par conséquent, je pense que le bilan général n'est pas négatif. Et surtout, je pense que si actuellement nous soyons dans une période de stagnation théâtrale, c'est peut-être parce que quelque chose de nouveau se prépare. Et en particulier, je crois réellement qu'il y a actuellement une sorte de remaniement profond du public. Une nouvelle génération de spectateurs, beaucoup plus jeunes, arrive au théâtre par le Théâtre National Populaire, par les centres de province, par les centres parisiens ou périphériques à Paris, qui ont une très grande importance. Il y a donc actuellement un grand renouvellement du public. C'est une affaire évidemment de longue haleine, et ça n'est pas parce que nous n'avons pas une production d'auteurs très éclatante en ce moment qu'on doit arriver à une conclusion négative, n'est-ce pas ? Au fond, le retrait de la création actuellement correspond peut-être positivement à une avancée du public vers le théâtre.
La révolution brechtienne. Depuis 24 siècles, en Europe, le théâtre est aristotélicien. Aujourd'hui encore, en 1955, chaque fois que nous allons au théâtre, que ce soit pour y voir du Shakespeare ou du Monterland, du Racine ou du Roussin, Maria Cazares ou Pierre Freinet, quels que soient nos goûts et de quelque parti que nous soyons, nous décrétons le plaisir et l'ennui, le bien et le mal, en fonction d'une morale séculaire dont voici le credo. Plus le public est ému, plus il s'identifie au héros, plus la scène imite l'action, plus l'acteur incarne son rôle, plus le théâtre est magique et meilleur est le spectacle. Or, un homme vient, dont l'œuvre et la pensée contestent radicalement cet art à ce point ancestral que nous avions les meilleures raisons du monde pour le croire naturel, qui nous dit, au mépris de toute tradition, que le public ne doit s'engager qu'à demi dans le spectacle, de façon à connaître ce qui est montré au lieu de le subir, que l'acteur doit accoucher cette conscience en dénonçant son rôle, non en l'incarnant, que le spectateur ne doit jamais s'identifier complètement au héros, en sorte qu'il reste toujours libre de juger les causes, puis les remèdes de sa souffrance. Que l'action ne doit pas être imitée, mais racontée. Que le théâtre doit cesser d'être magique pour devenir critique. Ce qui sera encore pour lui la meilleure façon d'être chaleureux. Eh bien, c'est dans la mesure où la révolution théâtrale de Brecht remettent en question nos habitudes, nos goûts, nos réflexes, les lois même du théâtre dans lequel nous vivons, qu'il nous faut renoncer au silence ou à l'ironie et regarder Brecht en face. Notre revue s'est trop de fois indignée devant la médiocrité ou la bassesse du théâtre présent, la rareté de ses révoltes et la sclérose de ses techniques pour qu'elle puisse tarder plus longtemps à interroger un grand dramaturge de notre temps, qui nous propose non seulement une œuvre, mais aussi un système fort, cohérent, stable, difficile à appliquer peut-être, mais qui possède au moins une vertu indiscutable et salutaire de scandale et d'étonnement. Quoi qu'on décide finalement sur Brecht, il faut du moins marquer l'accord de sa pensée avec les grands thèmes progressistes de notre époque, à savoir que les mots des hommes sont entre les mains des hommes eux-mêmes, c'est-à-dire que le monde est maniable, que l'art peut et doit intervenir dans l'histoire, qu'il doit aujourd'hui concourir aux mêmes tâches que les sciences dont il est solidaire, qu'il nous faut désormais un art de l'explication et non plus seulement un art de l'expression, que le théâtre doit aider résolument l'histoire en en dévoilant le procès, que les techniques de la scène sont elles-mêmes engagées, qu'enfin, il n'y a pas une essence de l'art éternel, mais que chaque société doit inventer l'art qui l'accouchera au mieux de sa propre délivrance.
Roland Barthes, vous avez examiné l'éclatement de l'écriture classique et de la pluralité des écritures qui en sont nées, et cela vous a amené également à vous intéresser à Rob Grier. Le texte que vous avez choisi pour nous, qui est un texte à propos de Rob Grier, pose en fait la question que se pose la littérature, qu'est-ce que le monde et qu'est-ce que les choses signifient ? Rob Grier y a apporté sa réponse d'une certaine manière, mais il subit une évolution. Vous concluez en disant que la littérature désigne et qu'elle se tait. Pouvez-vous nous dire quelques mots à ce sujet ?
Je pense que ce qui définit la littérature, disons pour ne pas nous engager dans une trop grande discussion, ce qui la définit actuellement dans ses œuvres de recherche, disons, eh bien, ce qui définit la littérature, c'est précisément de poser des questions et de ne pas répondre à ces questions. La littérature n'est jamais une doctrine, une philosophie, un système de réponses, mais bien au contraire, un système de questions. Et c'est cette sorte d'état ouvert des questions auxquelles elle ne répond pas qui précisément la définissent comme littérature. Je crois que lorsque on se met dans un état de grande simplicité en lisant ces textes de littérature contemporaine, qui en général ne sont pas difficiles et sont très beaux, eh bien simplement on a l'impression qu'on est devant quelqu'un qui effectivement se pose des questions devant le monde, devant ce qui ne va pas dans le monde, ou au contraire devant ce qui va, les sensations, les idées, les objets, les rapports entre les êtres, et les décrit de façon à nous faire participer à cette sorte de question. Qu'est-ce que cela veut dire, tout cela ? Mais qui, d'une certaine façon, ne répond jamais à cette question et ne nous dit jamais ce que veulent dire réellement les choses. Et c'est pour ça que j'ai pu dire que la littérature décevait perpétuellement le sens des choses, décevait presque au sens étymologique, c'est-à-dire désaisissait, n'est-ce pas, retirait sa prise de la question au moment où elle risque de se transformer en réponse. Je pense que les œuvres modernes, qui ne participent pas directement, précisément, à de grandes idéologies politiques, comme à un certain moment, par exemple, faisaient les œuvres du réalisme socialiste, ou même, d'une certaine façon, les œuvres balzaciennes par rapport à la société du temps de Balzac. Actuellement, nous avons une littérature, en un sens, beaucoup plus mystérieuse, beaucoup plus énigmatique, dans la mesure où nous ne connaissons pas le parti qu'elle prend sur le monde. C'est un fait qu'on a bien souvent noté depuis quelques années, que les écrivains d'avant-garde ou du nouveau roman, par exemple, sont des écrivains qui, personnellement, ont la plupart du temps des attitudes politiques assez fermes et assez bien connues et assez engagées, comme on dit, mais dont les œuvres, par contre, ne sont pas du tout engagées. On ne peut pas savoir la réponse qu'un roman de Butor ou qu'un roman de Rob Grier donne aux problèmes actuels du monde. Mais par contre, quand on lit ses œuvres, on a tout de même l'impression d'une sorte d'enrichissement de nous-mêmes, d'éclaircissement de nous-mêmes devant le monde, parce que précisément il y a une certaine question au monde qui est posée.
Quand vous dites que Rob Grillet est un chosiste, qu'entendez-vous par là?
Eh bien, c'est presque un jeu de mots, bien entendu. Rob Grillet chosiste, c'est tout simplement pour pouvoir l'opposer à un Rob Grillet humaniste. C'est-à-dire qu'on peut avoir de Rob Grillet deux conceptions, deux vues. On peut en faire, comme je l'ai fait moi-même au tout début de son œuvre, une sorte de scripteur, ou disons de descripteur extrêmement objectif des objets, des choses, ne s'engageant absolument pas dans cette description, leur laissant une sorte de matité, d'existence purement géométrique, avec justement un très grand développement des descriptions d'objets. Alors ça serait le Rob Grillet chosiste. Puis aussi, on peut concevoir un Rob Grillet qui, en réalité, à travers ses descriptions d'objets, investit, comme on dit maintenant, finalement une certaine psychologie et même peut-être une certaine psychopathologie, comme dans Le Voyeur. Bref, tout un monde humain, de relations, de tensions, de pulsions entre le viol et le meurtre, n'est-ce pas, comme précisément dans Le Voyeur, de même fondé sur des sentiments qui étaient très en vogue dans l'ancienne psychologie, comme la jalousie. Alors on peut dire à ce moment-là qu'il y a au fond un Rob Grillet psychologue et par là même humaniste.
Quel dieu, disait Valéry, oserait prendre pour devise « je déçois ». La littérature serait ce dieu. Peut-être sera-t-il possible un jour de décrire toute la littérature comme l'art de la déception. L'histoire de la littérature ne sera plus alors l'histoire des réponses contradictoires apportées par les écrivains à la question du sens, mais bien au contraire, l'histoire de la question elle-même. Car il est évident que la littérature ne saurait poser directement la question qui la constitue et qui est seule à la constituer. Elle n'a pu et ne pourra jamais étendre son interpellation à la durée du discours sans passer par le relais de certaines techniques. Et si l'histoire de la littérature est en définitive l'histoire de ces techniques, ce n'est pas parce que la littérature n'est que technique, comme on feignait de le dire au temps de l'art pour l'art, mais parce que la technique est la seule puissance capable de suspendre le sens du monde et de maintenir ouverte la question impérative qui lui est adressée. Car ce n'est pas répondre qui est difficile, c'est questionner, c'est parler en questionnant. De ce point de vue, la technique de Rob Grillet a été à un certain moment radicale, lorsque l'auteur pensait qu'il était possible de tuer directement le sens, de façon que l'œuvre ne laisse à filtrer que l'étonnement fondamental qui la constitue. Car écrire, ce n'est pas affirmer, c'est s'étonner. L'originalité de la tentative venait alors de ce que la question n'était affublée d'aucune fausse réponse, sans pour autant, bien entendu, être formulée en termes de question. L'erreur théorique de Rob Grillet était seulement de croire qu'il y a un « être là » des choses, antécédent et extérieur au langage, que la littérature aurait à charge, pensait-il, de retrouver dans un dernier élan de réalisme. En fait, anthropologiquement, les choses signifient tout de suite, toujours et de plein droit. Et c'est précisément parce que la signification est leur condition en quelque sorte naturelle, qu'en les dépouillant simplement de leur sens, la littérature peut s'affirmer comme un artifice admirable. Si la nature est signifiante, un certain comble de la culture peut être de la faire désignifier. D'où, en toute rigueur, ces descriptions mates d'objets, ces anecdotes récitées en surface, ces personnages sans confidence qui font, selon du moins une certaine lecture, le style, ou si l'on préfère, le choix de Rob Grillet. Cependant, ces formes vides appellent irrésistiblement un contenu, et l'on voit peu à peu dans la critique, dans l'œuvre même de l'auteur, des tentations de sentiments, des retours d'archétypes, des fragments de symboles, bref, tout ce qui appartient au règne de l'adjectif se glisser dans le superbe « être là » des choses. En ce sens, il y a une évolution de l'œuvre de Rob Grillet qui est faite paradoxalement à la fois par l'auteur, la critique et le public. Nous faisons tous partie de Rob Grillet dans la mesure où nous nous employons tous à renflouer le sens des choses dès qu'on l'ouvre devant nous. Considérée dans son développement et dans son avenir, qu'on ne saurait lui assigner, l'œuvre de Rob Grillet devient alors l'épreuve du sens, vécue par une certaine société. Et l'histoire de cette œuvre sera à sa manière l'histoire de cette société. Déjà, le sens revient. Chassé du fameux quartier de tomates des gommes, mais sans doute déjà présent dans la gomme elle-même, comme le montre Bruce Morissette, il emplit Marienbad, ses jardins, ses lambris, ses manteaux de plumes. Seulement, cessant d'être nul, le sens est encore ici diversement conjectural. Tout le monde a expliqué Marienbad. Mais chaque explication était un sens immédiatement contesté par le sens voisin. Le sens n'est plus déçu, il reste néanmoins suspendu. Et s'il est vrai que chaque roman de Robe Grillet contient en abîme son propre symbole, nul doute que la dernière allégorie de cette œuvre ne soit cette statue de Charles III et de son épouse sur laquelle s'interrogent les amants de Marienbad. Admirable symbole d'ailleurs, non seulement parce que la statue elle-même est inductrice de sens divers, incertain et cependant nommé, c'est vous, c'est moi, ce sont des dieux antiques, Hélène, Agamemnon, etc., mais encore parce que le prince et son épouse y désignent du doigt d'une façon certaine un objet incertain situé dans la fable, dans le jardin, dans la salle. Ceci, disent-ils. Mais quoi, ceci? Toute la littérature est peut-être dans cet anaphorique léger qui tout à la fois désigne et se tait.
Roland Barthes, toutes vos recherches ont montré que la littérature, finalement, la littérature telle que les recherches actuelles la définissent, pose un problème tragique. Or, le dernier texte que vous avez choisi parle de Voltaire, Voltaire écrivain révolutionnaire, et parle de Voltaire comme d'un écrivain heureux et comme du dernier des écrivains heureux. Pourquoi ?
Oui, le mot tragique que vous employez, en réalité, me pose certains problèmes, parce que je n'irai pas jusqu'à dire que l'écrivain actuel est dans une situation véritablement tragique, ce qui implique toute une métaphysique, toute une idée de la nature qui n'est pas, je crois, d'actualité, en tout cas qui n'est pas dans ma pensée. Mais ce que je dirais certainement, c'est que je crois que, disons avec une expression plus modeste et moins forte, mais tout aussi grave peut-être, la situation de l'écrivain actuel est une situation d'inconfort, au sens exact du terme, dans la mesure où, si vous voulez, précisément, l'écrivain est dans un monde où il se passe beaucoup de choses et où il n'a pas les moyens de répondre, lui, précisément, d'une façon exacte et efficace aux choses qui se passent dans le monde. Il y a donc toujours une sorte de distance entre l'écrivain et le monde et la société telle qu'elle se fait. Prenez un exemple. Il y a un développement considérable actuellement de ce qu'on appelle la culture de masse par l'intermédiaire précisément des moyens de communication, la presse, la grande presse, la radio, la publicité, la télévision, le cinéma, etc. Eh bien, vous voyez très bien qu'il y a une sorte de difficulté extrême pour un écrivain à mener d'une part des recherches absolument nécessaires, qui sont forcément des recherches d'avant-garde, qui doivent, pour être efficaces, se passer de la sanction immédiate du public, et d'autre part, participer à cette immense culture qui se fait autour de lui, et qu'il ne peut pas rejeter d'un simple mot. Voyez-vous, voilà le genre de difficulté qui peut se poser à un écrivain. Et nous savons très bien d'ailleurs que beaucoup d'écrivains actuels sont travaillés par ce problème et essayent par exemple de passer de temps en temps du côté du cinéma. Mais c'est toujours très difficile à résoudre. Donc je crois, et ceci n'est qu'un aspect bénin de l'inconfort et du dilemme, parce qu'il est bien certain que si on place sur un plan plus important et plus responsable, comme celui de la politique, eh bien, il est très difficile actuellement pour un écrivain d'engager son œuvre. N'est-ce pas comme on a cru la chose plus facile il y a quelques années, mais on s'aperçoit maintenant que c'est assez difficile d'engager une œuvre. C'est toujours relativement facile de signer un manifeste quand on est écrivain, mais de signer, si j'ose dire, politiquement, une œuvre, c'est beaucoup plus difficile. Et c'est là, justement, l'un des traits de l'inconfort de l'écrivain actuellement. Or, il est certain qu'il y a des époques qui, par leur histoire profonde, par l'ensemble des facteurs historiques très datés qui définissaient ces époques, faisaient que la situation de l'écrivain n'était pas inconfortable. Et je pense un peu avec une nuance de nostalgie peut-être, ou d'utopie, je ne sais pas, que l'époque de Voltaire, malgré toutes les difficultés matérielles énormes qu'elle comportait pour les écrivains, qui étaient souvent chassés, obligés de s'exiler, en butte à des persécutions policières, livres brûlés ou livres interdits, etc. Malgré tout, c'était précisément une époque heureuse pour l'écrivain, parce que l'écrivain vibrait d'une façon extrêmement homogène, harmonique, harmonieuse, avec son époque telle qu'elle se faisait. Il n'y avait pas cette sorte de mauvaise conscience qui s'est installée depuis dans la conscience de l'écrivain. L'écrivain qui se sent à la fois toujours une sorte de vocation universaliste, mais dans une société dont maintenant, par les progrès de la réflexion philosophique ou politique, il voit bien qu'elle n'est pas une société encore universelle. Bah, au fond, l'écrivain, par rapport à l'époque moderne, l'écrivain reste toujours ou en retard ou en avance.
Qu'avons-nous de commun aujourd'hui avec Voltaire ? D'un point de vue moderne, sa philosophie est démodée. Il est possible de croire à la fixité des essences et au désordre de l'histoire, mais ce n'est plus de la même façon que Voltaire. En tout cas, les athées ne se jettent plus aux pieds des déistes, qui n'existent d'ailleurs plus. La dialectique a tué le manichéisme, et l'on discute rarement de la providence. Quant aux ennemis de Voltaire, ils ont disparu ou se sont transformés. Il n'y a plus de jansénistes, de sociniens, de leibnitziens. Les jésuites ne s'appellent plus nonotes ou patouillet. J'allais dire, il n'y a plus d'inquisition. C'est faux, bien sûr. Ce qui a disparu, c'est le théâtre de la persécution, non la persécution elle-même. L'autodafé s'est subtilisé en opération de police. Le bûcher en camp de concentration, discrètement ignoré de ses voisins. Moyennant quoi, les chiffres ont pu changer. En 1721, 9 hommes et 11 femmes furent brûlés à Grenade dans les 4 fours de l'échafaud de plâtre. Et en 1723, 9 hommes à Madrid pour l'arrivée de la princesse française. Ils avaient sans doute épousé leur commère ou mangé du gras le vendredi. Répression horrible dont l'absurdité soutient toute l'œuvre de Voltaire. Mais, de 1939 à 1945, 6 millions d'hommes, entre autres, sont morts dans les tortures de la déportation parce qu'ils étaient juifs, eux ou leur père ou leur grand-père. Nous n'avons pas eu un seul pamphlet contre cela. Mais c'est peut-être précisément parce que les chiffres ont changé. Si simpliste que cela paraisse, il y a une proportion entre la légèreté de l'arme voltairienne, petit rogaton, pâté portatif, fusée volante, et le caractère sporadique du crime religieux au XVIIIe siècle. Quantitativement limité, le bûcher devenait un principe, c'est-à-dire une cible. Avantage énorme pour qui la combat. Cela fait des écrivains triomphants. Car l'énormité même des crimes racistes, leur organisation par l'État, les justifications idéologiques dont on les couvre, tout cela entraîne l'écrivain d'aujourd'hui bien au-delà du pamphlet, exige de lui plus une philosophie qu'une ironie, plus une explication qu'un étonnement. Depuis Voltaire, l'histoire s'est enfermée dans une difficulté qui déchire toute littérature engagée et que Voltaire n'a pas connue. Pas de liberté pour les ennemis de la liberté. Personne ne peut plus donner de leçons de tolérance à personne. En somme, ce qui nous sépare peut-être de Voltaire, c'est qu'il fut un écrivain heureux. Nul mieux que lui n'a donné au combat de la raison l'allure d'une fête. Tout était spectacle dans ses batailles. le nom de l'adversaire toujours ridicule, la doctrine combattue réduite à une proposition. L'ironie voltairienne est toujours la mise en évidence d'une disproportion. La multiplication des coups fusant dans toutes les directions au point d'en paraître un jeu, ce qui dispense de tout respect et de toute pitié. La mobilité même du combattant, ici déguisé sous 1000 pseudonymes transparents, là faisant de ses voyages européens une sorte de comédie d'esquive, une scapinade perpétuelle. Car les démêlés de Voltaire et du monde sont non seulement spectacle, mais spectacle superlatif, se dénonçant soi-même comme spectacle, à la façon de ces jeux de Polichinelle que Voltaire aimait beaucoup, puisqu'il avait un théâtre de marionnettes à Cirey.
C'était Morceau choisi. Morceau choisi, aujourd'hui, Roland Barthes. Page publiée, choisie par l'auteur et présentée par Jean Paget, avec François Chaumette, sociétaire de la Comédie-Française, René Clermont et Jean Topard. Prise de son Alain Chézot, assistante Nicole Vuillaume, réalisation Georges Gravier. C'était Morceau choisi.
C'était une émission diffusée la première fois le 20 novembre 1964.
Il pleut, c'est malheureux, il pleut depuis ce matin. Il veut s'emparer de mon être, sans paraître malhonnête. Gouttes de pluie, mes doutes s'enfuient, je ne m'ennuie plus. Il pleut, mais ce n'est pas la pluie qui occupe mes une reine, est-ce que j'en vaux la peine?